Eh bien, il est midi 8 sur Radio Circa 103.5. On est là pour les rendez-vous avec les artistes. Donc, on reçoit à midi Servan et Antoine de l'Attraction Céleste. Fred me fait un signe.
Voilà, pour te dire simplement qu'on va écouter le magnifique générique de l'émission.
Ah mais oui, le générique.
Alors, des rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.
Donc, nous sommes avec Antoine et Servan de l'Attraction Céleste, avec qui on va discuter un peu de leur projet, de leurs activités actuelles. Avant tout.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ils sont vraiment là.
Oui, on est vraiment là. Hein, c'est pas du bluff.
L'enregistrement est bon.
Voilà, et puis on recevra aussi, mais il ne sera pas vraiment là, parce qu'on a déjà enregistré l'entretien, Pierre Hiverna, qui est co-auteur avec Véronique Klein, du livre du panorama contemporain des arts du cirque. Donc ça sera dans la deuxième partie de l'émission. On aura aussi l'occasion d'écouter un extrait du concert qui a été donné hier au Centre Cusin avec Jour Domingo, et puis quelques messages du désormais célèbre répondeur de Radio Circa, Fred.
Ok. Alors donc, Servan, Antoine, merci d'être là. Et l'Attraction Céleste, bon, enfin, on est quelques-uns à vous connaître sur la ville d'Auch. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous ?
Donc oui, on est sur Auch. On est arrivé ici en 2003 pour travailler avec la compagnie Vendôtan en tant que musicien. Et après, ils nous ont fait faire un peu d'acrobatie, tout ça. Et en 2006, on a eu envie de travailler tous les deux avec Antoine, parce qu'on travaille ensemble depuis 13 ans maintenant, et qu'on avait vraiment envie de développer un langage autour de la musique, avec tout ce qu'on avait appris, avec les circassiens, avec les différentes disciplines qu'on a traversées depuis le début. Et du coup, on a créé l'Attraction Céleste. Et on a fait notre premier spectacle en juin 2007, qui s'appelle « Dans mes bras », qu'on joue dans une yourte et qui a joué à Circa en 2007. On était installé dans la cour des anciennes archives départementales. Voilà, après on a joué partout en France, on a joué un peu à l'étranger, on est allé en Amérique du Sud cette année. On joue un petit peu dans le Gers, mais pas très souvent. Et puis maintenant, on prépare notre deuxième création, qui est un spectacle de clowns musiciens. Donc ça, c'est vraiment un projet pour l'année prochaine.
On va en parler un peu plus précisément, mais déjà le nom de votre compagnie, qui est magnifique, vous l'avez trouvé comment ?
Alors je vais encore laisser Servan répondre, parce d'accord. que moi j'ai rien trouvé du tout, c'est Servan qui a trouvé un soir en regardant les étoiles forcément.
En fait, dans mes bras, c'est vraiment, on est parti des attractions foraines, c'est un univers qui nous attirait beaucoup, où les monstres étaient montrés à côté des cirques il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Mais... Et du coup, le nom d'attraction nous plaisait dans ce sens-là. Et puis, effectivement, le spectacle, la création, c'est quand même beaucoup l'imaginaire, le rêve et tout ça. Donc ça nous paraissait aussi logique de se laisser... emporté par tout ça, quoi.
Alors j'ai appris une expression là hier en écoutant Radio Circa et un reportage de Bertrand qui rapportait qu'on disait qu'on rentrait dans un chapiteau comme on rentrait dans un imaginaire. Mmh. Alors est-ce qu'on rentre dans une yourte comme on rentre dans un imaginaire, Antoine?
Notre yourte, elle est un peu particulière parce que c'est pas du tout une yourte traditionnelle. Nous, on n'était pas tant attachés à la yourte, en fait. Ce qu'on voulait, c'est avoir un mini chapiteau, en fait. Et le système de la yourte s'y prêtait bien. On avait vu à Circa aussi une compagnie qui s'appelle De Rien Merci, qui était venue avec un spectacle qui s'appelle Gramoulinophone, qui jouait sous une yourte à l'époque. Et c'est vrai qu'en voyant leur espace, on s'est dit que c'était ça qui nous convenait, en fait. Donc, on a contacté le constructeur de leur yourte qui nous a fait la nôtre. Donc du coup, notre yourte, elle ressemble pour nous plus à un petit chapiteau, une petite baraque foraine, Donc on espère que oui, il y a la même magie que sous un chapiteau. Oui. De toute façon, on a aussi créé un espace à l'intérieur. Sur les murs, il y a des sculptures, des petites sculptures que Servan a fait. Et puis on accueille les gens avant à l'extérieur avec du thé. On essaye de les mettre bien à l'aise pour les accueillir, quoi. Donc on espère que la magie opère quand ils rentrent dans l'espace. Ouais.
C'est clair que quand déjà on voit l'extérieur, ça attise vraiment la curiosité de se dire qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans cet univers-là. Ouais. Et effectivement, dès qu'on rentre, on est ailleurs. Ouais.
Et en plus, les gens sont assis en cercle à l'intérieur. Ça compte beaucoup en fait pour créer cette espèce de rassemblement de personnes qui vont vivre un moment tous ensemble. En fait. Ils ne sont pas tous face à la scène, mais on travaille vraiment en circulaire pour réunir les gens. Quoi.
Ça, travailler en circulaire, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous intéresse.
Ah oui, beaucoup. En fait, depuis qu'on a créé Autour d'elle avec la compagnie Vendôtan en 2003, depuis, on ne travaille que en circulaire. Et pour nous, c'est vraiment une forme très intéressante de rapport au public. On a vraiment plus l'impression d'être au milieu, d'être autour, d'être avec le public, que d'être effectivement séparé entre une scène et un gradin. On inclut en fait les spectateurs dans ce qui se passe, quoi. Et bon, c'est un exercice un peu difficile au départ parce que on doit toujours être présent même si on tourne le dos à quelqu'un. Donc il faut aussi que la mise en scène elle soit conçue en circulaire, de vraiment toujours bouger pour que chacun y trouve son compte. Et ça nous donne aussi du jeu. Ça, on a vraiment envie de le défendre, ouais.
Est-ce que c'est quelque chose, vous qui venez plus de la musique, qui vous a déstabilisé au début de vous retrouver comme ça dans des mises en scène en circulaire?
Ben, pas tant que ça finalement, parce que je dirais même que ça nous a même un peu servi, parce que c'est pas confortable pour jouer de la musique justement. Et comme on voulait travailler sur quelque chose d'assez clownesque aussi, ben, ça provoque une situation qui est déjà pas normale, quoi. Donc qui va provoquer en fait plutôt des accidents et plutôt être propice au clown en fait. Donc ça nous a pas tant déstabilisé que ça en fait.
Non, puis c'est vrai que la musique, on n'a jamais fait vraiment que de la musique, on a toujours mélangé avec d'autres choses. Mais là, c'était vraiment le point fort de se dire on peut même pas rester assis sur une chaise pour jouer de toute façon. On est obligé de bouger et que ce soit vivant.
Et comme on travaille beaucoup sur la musique, mais on est souvent en mouvement au moment où on joue, en fait, bah, voilà, c'est plutôt propice en fait.
Et donc votre nouvelle création là repart, enfin c'est un duo clownesque.
Bah c'est,
par
voilà,
rapport
c'est...
par rapport à la création précédente, il y a un lien entre les deux, il y a un suivi.
Bah pour nous il y a une logique, ouais, on continue vers le clown. En fait ça fait si on reprend un peu notre parcours, nous on est quand même plutôt musiciens au départ. Et puis on a travaillé, on était sur tour à l'époque avec des compagnies qui mêlaient spectacle vivant, des fois cinéma, des fois enfin un peu tout ça. Donc musicien accompagnateur, et puis petit à petit on a mis un pied sur le plateau. Quand on est arrivé pour travailler avec Vendôtan sur au départ on a rejoint le spectacle Patouche Terre, donc le spectacle était déjà créé, on était en fond de scène vraiment comme musicien accompagnateur. Et puis sur Autour d'elle, on est vraiment devenu comédien avec eux à part entière au plateau. Là on a appris à bouger, et puis on a porté un spectacle tous les deux en mettant tout ça. Et puis parallèlement, en fait, depuis tout ce temps là le clown on l'a en ligne de mire. Et on s'est formé au clown, voilà, un peu dans des stages, un peu en lisant des choses, voilà. Et puis de toute façon, pour le clown, je crois qu'il faut une certaine maturité. Donc tout ça, on a acquis des choses. Et puis là, maintenant, c'est le moment. Parce qu'on s'est joué de la musique, on s'est bougé en jouant de la musique. Moi, j'ai appris à faire des claquettes, à jouer de la clarinette, à jouer de la clarinette en faisant des claquettes. Enfin, une espèce de virtuosité du clown qui nous intéresse bien aussi. Donc voilà, tout ça prend forme. Puis là, pour nous, c'est le moment de s'y mettre, ouais.
En fait, c'est un vieux rêve. Ça fait vraiment très longtemps qu'on a envie de ça. On se disait on sera des vieux clowns quand on aura 60 ans. Donc finalement on essaye de prendre un peu d'avance pour s'éclater, parce que c'est vraiment un endroit où on sent qu'on va prendre notre pied. Enfin on le prend déjà d'ailleurs, parce que on a créé un numéro d'un quart d'heure. Parce qu'en fait avec les gens qu'on a sollicités pour soutenir le projet, on leur a dit pour nous le clown c'est vraiment important qu'ils trouvent très vite un public, parce que c'est là qu'on va pouvoir fignoler, pour trouver le rythme, pour que le rire arrive, quoi. Et puis sentir aussi que, voilà, est-ce qu'il y a des moments de poésie, comment on intercale le rire, la poésie, et puis d'autres choses qu'on a envie de trouver. Et du coup, on nous a proposé direct une date pour faire un numéro d'un quart d'heure. Et puis, on l'a fait en juin. Et depuis, on l'a joué 4 ou 5 fois. Et on s'éclate vraiment beaucoup avec. Et à partir de la fin de Circa, là, on va rentrer vraiment en création intensive pour aboutir à une forme d'une heure l'année prochaine.
Alors justement, c'est un peu sur cet aspect-là aussi qu'on voulait vous entendre, puisque vous êtes, comme tu viens de le dire, dans cette période de création. Donc outre le fait que vous êtes venu ici présenter votre projet dans le cadre des rencontres qui sont co-organisées avec Hors les Murs, comment ça se passe? Alors c'est une large question, mais bon, après on pourra la détailler, mais comment ça se passe, et tu as donné quelques indices, mais pour vous, de vous mettre dans cette dynamique de création? À partir de quel moment est-ce qu'on en a conscience, d'ailleurs, le moment où on commence à basculer dans quelque chose qui est un processus de création dont le final sera de présenter un spectacle?
Oui, c'est très long comme cheminement, parce que donc nous, on tournait dans mes bras, on le tourne toujours, et du coup, on est dans cette dynamique, on tourne ce spectacle, et puis petit à petit, il y a des désirs qui arrivent. Mais de là à prendre la décision que voilà, ça va être ça, qu'on va travailler ça et pas autre chose, ça prend du temps déjà. Bon, quand on a décidé de faire ce duo de clown, après, il y a toute une machine qui se met en branle un peu, effectivement, d'écrire son projet déjà, d'essayer d'affiner en théorie ce qu'on aimerait défendre.
L'écrire, c'est pour vous ou c'est pour trouver des gens qui vous soutiennent?
Alors, c'est un peu les deux. Les dossiers sont effectivement, les dossiers de création sont très importants et ils doivent être faits très en amont de la création. Donc effectivement, au départ, si on écrit, c'est dans cette optique-là. Et à chaque fois, ça nous fait avancer, en fait, parce que le fait de mettre sur le papier les idées qu'on veut défendre, ce qu'on imagine, ça nous aide vraiment à construire le projet, en fait. Donc c'est quelque chose qui avance comme ça.
D'autant plus que dans un projet de création, forcément, on ne sait pas quelle sera la forme exactement à la fin. Et à la fois, il faut être quand même relativement clair, en fait, et assez lisible sur ce qu'on veut proposer. Donc ça implique cette réflexion et d'être voilà, de sortir un texte qui soit assez compréhensible. Donc forcément, ça nous fait avancer beaucoup dans la tête à ce moment-là. Ouais.
Et quels sont les éléments qui vous font avancer, ou des déclics dans ce processus qui est en cours?
Par exemple, nous, on s'est dit tout de suite, bon, on sait qu'on veut continuer en circulaire. On en est sûr, ça, il n'y a pas de doute. Donc, on essaye d'exprimer pourquoi c'est important pour nous, de dire on le fera comme ça, et on le fera comme ça parce que, voilà, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au cœur du public, en proximité, etc. Donc après, ça nous fait réfléchir aussi, on se dit, si on veut absolument jouer en circulaire, on va pas pouvoir aller dans tous les théâtres. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une structure qui nous accompagne pour que les conditions de jeu soient vraiment optimales pour le public? Donc ça, du coup, découle l'idée du chapiteau. Donc, on développe ça. Et puis, après, il y a tout le côté artistique où on doit se dire, nous, nos clowns, on a envie qu'ils soient plutôt musiciens, bien sûr. Mais ils vont être aussi un petit peu acrobates. Et puis on cite aussi les références sur lesquelles on s'appuie. Nous, on a effectivement beaucoup de lectures sur le clown depuis pas mal d'années. Il y a certains livres qui nous ont vraiment marqués. Donc ceux-là, on les note, enfin on les cite. On trouve les phrases qui sont vraiment importantes pour nous. Ce qui permet effectivement aux gens qui sont en face et qui peuvent nous soutenir de vraiment se situer là où on est, quoi.
Et quand tu dis on les cite, donc vous les citez quand vous les écrivez, mais est-ce que vous les citez aussi dans votre jeu?
Dans notre jeu,
ouais.
Oh, je pense que y a les gens qui connaissent pourront trouver effectivement des références. Des clowns musiciens, il n'y en a pas tant que ça, donc forcément ils vont imbiber notre jeu. Mais après, on n'a surtout pas envie de copier, quoi. Notre rôle, c'est surtout de trouver nos clowns, nos gags, nos énergies, notre poésie. Après, effectivement, voilà, nous on peut pas se cacher que Grock c'est un clown qu'on admire et des fois on se bat pour pas reprendre ses trucs, c'est clair.
Ouais.
Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour pas le reprendre lui, on va se creuser la tête pour aller ailleurs ou plus loin, et c'est ça qui va aussi nous donner, nous nourrir, quoi, et nous faire avancer.
Antoine, tu voulais rajouter? Non, je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Alors justement, je reviens maintenant sur ce que tu disais, enfin ce que vous disiez tout à l'heure sur ce qui vous semblait important que dans ce processus de création, il y ait une proposition déjà, donc le quart d'heure que vous proposez de clown pour être confronté au public. Alors comment vous l'avez conçu ce quart d'heure par rapport à la globalité du processus dans lequel vous êtes engagé?
Ben, comme on l'a conçu, en fait, on s'est un peu jeté dans le travail. En gros, on s'y est pris un bon mois avant. On a travaillé un mois avant de le présenter. Bon, on avait pas mal d'envie, en fait, parce qu'en fait, il y a vraiment deux moments, en fait. Il y a l'idée du spectacle qui va naître, qui va commencer à résonner dans la tête, et puis on va se dire, voilà, machin, on pourrait partir là-dessus. Et là, on va partir dans toute cette période d'écriture, de dossier, de réflexion, de lecture, de machin, où tout ça va prendre... C'est un peu comme à lance-pierre, où on tend l'élastique, et puis au moment de partir au travail, et ben on lâche, et là, ça fuse, quoi. Donc, c'est un peu le deuxième temps, en fait. Voilà, on a fait ça sur le quart d'heure, là, on en est là, on va partir sur la création, et voilà, il y a plein d'idées qu'on a déjà, qu'on met en place. Donc on est sur le quart d'heure, on a fait en sorte que voilà, au niveau esthétique, sachant que voilà, on a bricolé nos costumes, c'est pas les costumes finales, mais on essaie de trouver un peu la forme des costumes qui nous plaît, qui va être propice aussi au clown. On a essayé de faire le spectacle en miniature, c'est déjà un premier essai, mais d'aller vraiment dans la direction qu'on a envie de prendre, ouais.
Et ça vous a apporté des certitudes déjà sur sur la suite, ce quart d'heure?
Ben, ça nous a
enlevé des doutes.
Ouais, en tout cas au moment où on l'a présenté, puisque c'est vrai que le clown, il se fait vraiment. Le travail du clown, c'est quand même un rapport avec le public, quoi. Donc tant qu'on n'est pas devant le public, d'autant plus qu'on travaille que tous les deux sur ce spectacle-là. Pour l'instant, on a décidé de pas prendre de metteur en scène. Et moi, j'avoue que 5 minutes avant enfin même pas la journée avant, j'ai plié une aile de la voiture. Enfin, c'était un peu speed. Juste avant de le présenter, j'étais un peu dans mes petits souliers. Après, ça a été très bien perçu. Bon, il s'avère que les premières, la toute première fois qu'on l'a joué, au Pop Circus, au cabaret des anciens, qui a eu lieu au mois de mai. Donc, c'est plutôt un contexte assez rassurant parce que voilà, le Pop Circus, c'est une grande famille et on s'y sent bien et voilà. Mais une fois qu'on a eu le retour du public, oui, ça nous a plutôt conforté. Ouais.
Après, effectivement, la question qui se pose maintenant, c'est... bon, ça, c'est un quart d'heure. C'est la première fois qu'on travaille comme ça, en fait. Pour Dans mes bras, ça n'aurait pas été possible. Mais là, on s'est donné comme but une demi-heure en décembre. Et puis ensuite, une forme d'une heure en juin. On n'avait jamais travaillé comme ça, en faisant un petit et grossir petit à petit. Mais finalement... pour trouver des moments clownesques, puisqu'on va pas raconter vraiment d'histoire, c'est vraiment un univers où on joue de la musique et il se passe des choses entre nous, mais il n'y a pas vraiment un début, une fin pour l'instant. On ne sait pas s'il y aura vraiment quelque chose de raconté du début à la fin. Ça va bien sûr évoluer et on va découvrir des choses petit à petit de nous et de nos rapports, mais ça nous a permis aussi de faire ça, quoi.
C'est vrai que par rapport à l'expérience de Dans mes bras, en fait, on fonctionne... un peu, pas à l'inverse, mais sur Dans mes bras, on était assez clair sur ce qu'on voulait raconter, sur le fond, en fait. Alors que là, on est plutôt assez clair sur la forme. Sur le fond, un peu moins, on sait moins ce que ça va raconter. Alors, ça va être l'altérité, hein, les deux clowns qui se confrontent. C'est toujours un espèce de miroir de la société, essayer de mettre en exergue des choses qui nous paraissent un peu aberrantes dans la société, mais pour tout le monde, quoi. Et c'est ça qui, au bout du compte, fera rire les gens. Mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus clair sur la forme que sur le fond. Donc, c'est un peu... on prend pas le travail dans le même sens, en fait.
Et alors, comment vous l'avez présenté hier? C'était hier que vous le présentiez à la rencontre qui est organisée par Hors les Murs. Donc, je rappelle qu'il propose à des compagnies de venir présenter leur travail à des professionnels. Comment ça se passe? Parce que je crois que le temps est un peu compté.
On a 8 minutes.
Voilà. Donc, ça va vite.
La personne qui gère tout ça a bien son chronomètre dans la main.
C'est 8 minutes, pas plus.
On a 8 minutes et sachant que sur la matinée, il y a quand même plus d'une vingtaine de projets,
23 compagnies
qui sont présentés. Donc c'est 8 minutes au milieu de plein de projets.
De 9h30 à 13h, et même certainement plus, on est parti avant, mais ça n'a pas dû terminer à 13h. Il y a des gens qui présentent. Donc c'est un exercice assez difficile pour tout le monde, je pense. Autant pour les compagnies qui présentent, qui ont quand même un peu de pression aussi, parce qu'il y a un parterre de programmateurs, de personnes justement qui ont des missions de soutien et de production. Donc il peut y avoir des enjeux importants.
Bien sûr.
Et du coup, il y a pas mal de pression de la part des compagnies. Et puis, les pros qui engrangent aussi toutes les informations pendant 4 heures, c'est assez, assez difficile, je trouve.
Bah oui.
Après, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit, on voit tout ce qui se crée, tout ce qui émerge. Ça fait un panel de ce qui va se créer dans les prochains mois, prochaines années. Et puis nous, en tant que compagnie, ça nous permet de se présenter à pas mal de gens en même temps. Et ce qui est une opportunité vraiment intéressante, parce que quand on envoie les dossiers aux programmateurs et aux directeurs de structure, on ne sait jamais s'il reste sur la table, s'il est directement mis dans la poubelle, s'il a été mis au chaud ou pas. C'est aussi assez difficile de le savoir, parce que quand on rappelle après pour savoir si effectivement ils l'ont lu et si ça les a intéressés, il faut réussir à les avoir. Parce qu'ils ont évidemment tous des secrétaires et si on n'a pas déjà un contact en fait avec la personne, c'est très difficile. À moins que la personne flash vraiment sur le projet et que ça l'intéresse et qu'elle se lance à faire confiance à une équipe ou essayer d'aller plus loin, c'est quand même assez difficile.
Et alors, oui, Antoine.
Bah, c'est d'autant plus difficile qu'on débute en fait, parce que on se rend bien compte pour nous que sur le deuxième spectacle, c'est déjà plus facile que sur Dans mes bras, où c'était le premier spectacle de la compagnie, quoi. Puisque Dans mes bras,
on connaît quoi.
Bah, on nous repère. Alors, on n'est pas parti de zéro pour Dans mes bras, parce qu'on était passé par la compagnie Vendôtan, qui est une compagnie reconnue depuis longtemps. Mais il fallait quand même,
On a quand même aujourd'hui 15 ans d'expérience. Notre compagnie débute, mais nous, on débute pas.
Voilà, mais c'était quand même un premier spectacle et c'était plus difficile d'avoir les gens. Après, voilà, là, maintenant, Dans mes bras, ça a joué à Circa, donc on a été repéré à ce moment-là. Il y a eu plus de 200 représentations Dans mes bras quand même, un peu partout. On a eu un article dans Télérama qui donne aussi de la crédibilité à un moment. Enfin, donc c'est quand même un petit peu plus facile. C'est la deuxième fois, quoi. Mais c'est vrai que pour une compagnie qui débute, là, il y avait des projets hier de jeunes qui sortent de Chalon, qui en sont à leur premier spectacle, qui savent même pas encore comment s'appelle leur compagnie, ou par exemple. Enfin, il faut qu'ils fassent leur place au milieu de plein de compagnies, et c'est un exercice assez difficile. Ouais.
Et c'est vrai qu'on a eu, pour Dans mes bras, il y avait deux structures qui nous ont soutenus. Et là, pour BBUM Frey, il y a 5 structures qui s'intéressent au projet. Et c'est vrai que les 3 qui se sont rajoutées, c'est des gens chez qui on est allé jouer Dans mes bras, avec qui on a fait des projets intéressants et avec qui on a une envie mutuelle en fait de travailler. Je crois que c'est vraiment ça. C'est nous, les équipes qui nous soutiennent, là, on est très contents parce que c'est des gens qui défendent une certaine forme de rapport au public ou de spectacle. Et ça, c'est très important aussi, quoi. Il faut qu'il y ait un intérêt commun en fait dans la production du projet, quoi.
Donc vous voyez les mois qui viennent là,
avec plaisir déjà, parce que on va vraiment être au plateau. C'est vrai que nous, on a la particularité d'être une petite compagnie. On est une petite entreprise artisanale familiale parce qu'on est tous les deux et on fait tout nous-mêmes, quoi. Donc, effectivement, on passe pas mal de temps aussi derrière l'ordinateur pour les dossiers, pour trouver des sous, pour machin, pour ceci. Et souvent, on se dit qu'on passe pas assez de temps sur l'artistique. Bon, là, on va partir sur une création où on va vraiment bosser au plateau. Déjà, on y va avec plaisir, quoi. Sur le spectacle, on est plutôt assez confiant. On est content du premier quart d'heure. On a vraiment envie de le développer. On s'amuse bien. Ça va. Donc, je crois qu'on est plutôt assez serein par rapport.
Ça nous fait très plaisir de plonger là-dedans. Après, c'est vrai qu'on a prévu de le créer a priori vers l'automne 2011. Et on ne sait pas du tout ce qui se passera après, en fait, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas mis l'accent sur la diffusion de Dans mes bras parce qu'on voulait se rendre complètement disponible sur la création. Donc les soutiens financiers des coproducteurs, ça va aussi nous servir à pouvoir poser des périodes de répétition sans se poser de questions. C'est ça qui est vraiment important. Mais après, voilà, ce sera... Après, c'est vraiment le... On ne sait pas. Soit il y a aussi toute une période où les programmateurs veulent voir évidemment le spectacle, donc il y a aussi un petit creux entre le moment où le spectacle sort et où il peut tourner. Mais voilà, ça, après il y a les coproducteurs qui parfois remplissent cet espace là en programmant eux la forme, et puis
il y a la difficulté de la première aussi, que nous on essaye quand même pas mal d'éviter en jouant, en rencontrant le public tout au long de la création. C'est vrai qu'un spectacle qui répète dans son coin, et qui fait une première, si en plus c'est une première sur un festival comme Circa où tous les professionnels sont là et que la première, forcément, le spectacle est jamais bien au point au moment de la première, c'est vrai que ça peut être destructeur des fois pour des spectacles, quoi, qui n'arrivent pas derrière à rattraper le truc et à... Bon, après, tous ces programmateurs, voilà, ils savent que c'est une première, ils savent...
Ils repéraient aussi qu'il y
a un travail qui peut aller où ça peut aller, tout ça, c'est leur métier aussi, donc il faut leur faire confiance. Mais c'est vrai que cette date butoir de la première est souvent quelque chose d'assez difficile, ouais.
On va faire une petite pause musicale. Si vous avez encore quelques petites minutes, on se donne pour parler un petit peu du spectacle que vous présentez ici avec tous les anciens du Pop Circus.
105.3.
Alors, c'est une sacrée question, ça.
Mais non, c'est 103.5.
Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à devant des écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étire et risait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dis, dans des mots doux, oh, dis désir ici, efficace est à passer. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer la gila du bout des doigts. Donc si nous songeons, si tu médites des fois, tu fasses fuir maman une note cassée. Cassée, on n'en est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mais la vie qui vit, qui file la masse en balélie, cassée, la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer la gila du bout des doigts. Donc si nous songeons, si tu médites des fois, tu fasses fuir maman une note cassée. Cassée, on n'en est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mais la vie qui vit, qui file la masse en balélie, cassée, la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il y a la caisse, comme des oufs, tu l'as pas scoumaco. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage. Aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dans des mots doux, dis désir ici, efficace est à pas passer. Et si loneliness disparaît tout la noche, t'aimerais comme bec qu'un désir ambitieuse assurément libère toute l'animal sauvage. La cause comme t'es la hate. T'as beau voilà, tu que truca, tu que traca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille cop petite coburut. En cuero y copa, tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille cop petite. Disparaît tout A ton avis, ça se vit. Puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond, la nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, il s'est bon, c'est le ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous, donc, dans des mots doux, du désir ici, efficace et d'avant-passé.
Et voilà, c'était Indifférence par la compagnie Lubat. On continue à discuter avec Servan et Antoine de la compagnie Attraction Céleste. Et on va discuter un peu de ce pourquoi aussi vous êtes avec nous. Et puis sur le festival, c'est avec la pêche, ça passe. Donc c'est le spectacle qui est proposé au Pop Circus. Donc on a nous discuté déjà avec quelques-uns d'entre vous il y a quelques jours. Mais alors, les jours passant maintenant, est-ce que ça s'affine tout ça? Dans quel climat ça se passe?
Dans un très bon climat, on espère que ça s'affine, ouais, parce que c'est vrai que ça
approche.
C'est ouais, chevouillant.
Bon, après, c'est un exercice qui a lieu régulièrement au Pop Circus, de monter un cabaret, les anciens reviennent. Voilà, il y en a qui ont des numéros qui sont tout prêts, d'autres pas... Donc les numéros qui sont prêts, bon, ceux-là sont assez travaillés. Il faut monter des collectifs. Alors là, par exemple, il va y avoir un collectif d'acrobatie où je crois ils sont 13 ou 14 ouais, à faire monter ouais. Un numéro ensemble. Il va y avoir un autre, un collectif de cordes où là, pendant les 3-4 jours, parce que généralement les premiers arrivent au maximum 5 jours avant, quoi. Mmh. Et pendant les petits temps où on arrive à se dégager 2 heures pour travailler la corde, et ben voilà, ils vont monter leur numéro. Et puis ça va assez vite finalement parce qu'ils ont tous un langage commun. Et puis après, il y a voilà, le travail lié à tout ça, comment on fait les transitions, mettre la musique dessus. Nous, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Et ce soir, on va faire une générale. C'est la première fois qu'on va voir à quoi ressemble le spectacle en fait finalement.
D'accord. Et alors, ce lien, est-ce que ce fil conducteur, comment il est travaillé? Vous dites des choses avant, vous communiquez, vous appelez, vous envoyez des mails, vous faites comment?
Ouais, mais en fait, là, le cabaret qu'on va faire, on a déjà fait une première forme au cabaret des anciens en juin, là. Et c'est la première fois d'ailleurs au Pop qu'on va reprendre un cabaret qu'on a déjà fait.
C'est pas la même chose, mais on
c'est
va
pas
s-
la
on
même chose,
dessus,
mais ouais. On va s'appuyer dessus parce qu'effectivement tout le monde arrivait un peu au dernier moment. Et c'était une idée de départ un peu de certains anciens de travailler sur une intrigue policière. Donc ça va faire le lien entre tous les numéros.
Et généralement, ce qui se passe, c'est que ça se passe un peu au dernier moment, et voilà, il y en a toujours un qui a une idée ou qui balance, et puis les autres suivent, et ça part direct.
Quand même beaucoup de gens très créatifs, ça fuse dans tous les sens, et il y a plutôt besoin d'élaguer que de chercher.
Il y a quelqu'un qui a un regard un peu sur la globalité du truc ou...
Non, il y a toujours un ou deux qui va un peu diriger, mais encore non, pas vraiment au niveau artistique, quoi.
Après, c'est un petit peu en fonction des disponibilités aussi. Pour ce cabaret-là, à ce moment-là, il y avait 2-3 personnes qui étaient vraiment disponibles, qui se sont rencontrées. Qu'on réfléchit à quelle idée il pourrait développer et qu'on quand même un peu écrit un scénario, qu'on vraiment écrit des scènes en amont. Mais c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'il y a eu autant de travail parce que bon, 35 ans, c'est quand même un événement.
Et combien êtes-vous là sur le plateau?
On est une trentaine.
Sur le projet,
une trentaine. Voilà. Donc nous, en fait, on n'est pas des anciens, mais on est ce qu'on appelle des artistes associés. On a beaucoup participé à la vie du Pop, comme on est à Auch. Bon, en plus, maintenant, on a un enfant au Pop. Mais voilà, ça réunit beaucoup, beaucoup d'anciens. Et, je ne sais pas de quel âge ça va, mais là, il doit y avoir de 20 à 40 à peu près, quoi. Il y a une fourchette... Et c'est ça qui est super agréable dans ce cabaret, quoi. C'est que tout le monde se retrouve et crée ensemble.
Et donc cabaret qu'on retrouve donc jeudi, vendredi et samedi à 20h30 donc au Pop Circus.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Je voulais, parce que je cherchais, mais je crois bien que de mémoire, parce que j'arrive pas à le retrouver dans les documents, que Monsieur l'abbé de Lavenère va dédicacer, signer le livre qui est sorti donc pour l'anniversaire des 35 ans du Pop Circus ici même, je crois bien, à 17h aujourd'hui. Voilà, on va se renseigner quand même. Merci beaucoup.
Juste, petite précision, au cours de ce cabaret, nous, on jouera notre numéro, le fameux numéro d'un quart d'heure dont on a parlé tout à l'heure.
D'accord.
Et il se peut pour les Occitains qui écoutent qu'on, dans les prochains mois, on fasse aussi des sorties à Auch et dans les environs. Donc, si vous voulez venir nous aider à créer ce spectacle en nous donnant des retours, eh ben, ce sera l'occasion. Faut guetter,
c'est noté. Merci beaucoup de votre venue dans ce moment intense pour vous cette semaine. Et on vous retrouve donc jeudi, vendredi et samedi au Pop Circus et plus dans le futur. Merci beaucoup.
Merci Radio Circa.
On va continuer à parler de cirque, bien sûr, avec un livre qui est sorti hier pour le festival. Et c'est un événement, on en a parlé avec le directeur d'Or les Murs, un cirque qui tout simplement se propose de faire le panorama contemporain des arts du cirque. Autant dire que c'est un volume et qui est présent ici à la Maison de Gascogne. Et Pêche a rencontré hier son co-auteur, plus exactement Pierre Hivernat, puisqu'il signe ce livre avec Véronique Klein. Je vous propose de les écouter tout de suite.
Pourquoi avoir édité aujourd'hui un panorama des arts du cirque ?
Ouais, la réponse est tout aussi simple que la question, parce que ça n'existait pas. Voilà, c'est la raison principale, parce qu'un éditeur, généralement, se lance en ayant une idée de ce que ça va donner d'un point de vue du lectorat. Si le marché est encombré, on fait une étude de marché. Si le marché est inexistant, on se dit que peut-être on va trouver des lecteurs sur un ouvrage qui n'existe absolument pas, puisque c'est une sorte d'histoire contemporaine des 30 ou 40 dernières années. Et ça n'existe pas, c'est le premier ouvrage de cette nature qui sort.
Alors dans la constellation circassienne, certains choix ont dû être difficiles à faire, puisque je suppose que toutes les compagnies qui ont traversé cet univers du cirque contemporain ne sont pas présentes dans le livre.
Et non, elles ne sont pas présentes parce que moi je suis, parmi mes fonctions, je suis un ancien journaliste des Arts Occuptibles, Véronique Klein aussi, et donc on a fait un travail de journaliste pendant 5 ans où on a chroniqué un certain nombre de compagnies circassiennes, entre autres, puisque la rubrique s'appelait la rubrique scène, et donc il y avait des circassiens comme il pouvait y avoir des gens de théâtre ou des gens de danse. Et le principe journalistique que vous connaissez aussi bien que moi, c'est qu'on fait des choix et que c'est subjectif et qu'on a décidé d'écrire cette histoire et on l'écrit avec ce que... Voilà, on signe, c'est notre histoire à nous. Si d'autres auteurs un jour veulent faire une autre histoire avec d'autres compagnies, évidemment ils sont libres, tout le monde est libre d'éditer et de raconter ce qu'il veut sur l'histoire du cirque contemporain. Voilà, en dehors de ça... Faut pas rêver non plus. On avait un choix très simple. Soit on se lançait dans une sorte d'exhaustivité qui est toujours impossible. Et là, on aurait eu, 150 compagnies. Et à ce moment-là, évidemment, ce livre n'avait plus aucun sens puisque ça aurait été non pas un panorama mais une encyclopédie. Et peut-être un jour un éditeur se lancera dans l'édition d'une encyclopédie. Nous, c'est un panorama. Donc il y a un choix. On a fait un système en entonnoir assez classique. Au début, il y en avait une centaine. Et on s'est rendu à 70 au fur et à mesure des écrémages, des hiérarchisations, des priorités. Voilà.
Alors, c'est un panorama du cirque contemporain. International, il faut le dire aussi. Il y a des compagnies du monde entier que vous avez donc croisées a priori.
Ah oui, bien sûr. Toutes les compagnies qui sont dans le livre, par principe, on les a vues. Par principe, elles ont répondu au questionnaire. Par principe, on a vu un ou plusieurs de leurs spectacles. C'est évidemment un travail de longue haleine, ça fait des années. Moi j'ai été directeur de la Villette, donc j'ai programmé du cirque pendant 7 ans. Hein. J'ai vu un certain nombre de spectacles de cirque pendant des années et des années. Donc tout ça ne vient pas, évidemment pas de rien. International, ça va de soi. Je dirais même que c'est un peu la conclusion que je tire aujourd'hui après avoir fait cet ouvrage avec Véronique Klein. C'est l'idée que l'ouverture internationale est pour moi aujourd'hui ce qui est le plus intéressant. Vraiment, c'est ce qui permet de rencontrer d'autres univers, de voir que d'autres pays et d'autres cultures produisent un cirque différent. Ça, j'ai trouvé ça assez passionnant. À mon goût, il n'y en a pas assez des compagnies étrangères dans le livre. Mais ça, il aurait fallu qu'on fasse plus de voyages, qu'on circule plus dans le monde et qu'on ne se contente pas seulement des festivals. On a voyagé un peu, mais probablement pas assez.
Et à l'inverse, les compagnies étrangères qui viennent en France, peut-être... Il y a des circuits qu'il faudrait développer pour que vous ne vous déplaciez plus, finalement.
Oui, ça c'est l'affaire des programmateurs. Moi, je n'ai plus grand-chose à dire là-dedans, je ne suis plus programmateur. Mais oui, je pense sincèrement qu'il y a tout un travail à faire. C'est un travail que fait, par exemple, Jeunes Talents Cirque, qui est une organisation comme vous le savez sûrement, travaille sur les jeunes talents cirque, comme son nom l'indique, mais qui est surtout devenue, depuis quelques années, Jeunes Talents Cirque Europe, ce qui a changé complètement la donne, puisque grâce à eux, justement, on peut aujourd'hui découvrir des jeunes compagnies de toute l'Europe et elles sont découvertes par un jury qui est composé aussi de programmateurs, donc évidemment il y a une circulation qui se fait à cet endroit-là. Après il y a la question de la formation qui est assez complexe, hein. On a quand même des très grandes écoles en France et donc il y a effectivement une surpopulation circassienne en France, c'est assez clair, et une sous-formation dans un certain nombre de pays, mais les choses sont en train de changer.
Alors, c'est un panorama contemporain des arts du cirque, tel est le titre de votre ouvrage. Le panorama contemporain que vous posez là n'intègre pas, ceci dit, le cirque qu'on appelle classique ou traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un clivage. Vous avez travaillé sur des compagnies intégrées dans un réseau de scènes nationales ou de festivals comme Circa.
Oui et non. Il y a une exception à la règle, il y en a une ou deux, enfin bon, il y a Rasposo, c'est marrant d'ailleurs parce que Rasposo on les avait vus ici l'année dernière très exactement à la même date. Et Rasposo fait partie du panorama contemporain. On nous a souvent posé la question pourquoi, on a répondu dans l'introduction, on a décidé de faire une introduction à cet ouvrage qui fait une trentaine de pages. Donc c'est pas une petite introduction, c'est en fait vraiment une introduction historique et on explique les raisons pour lesquelles il a fallu prendre cette décision de ne pas faire figurer un certain nombre de compagnies de cirque dits traditionnels ou néo-traditionnels. C'est pas pour des raisons de goût ou pour des raisons que ces compagnies n'existent pas ou n'ont rien à faire dans le panorama du cirque. Elles ont évidemment toute leur place dans le panorama du cirque. Simplement, à un moment donné, on a regardé ce qui existait comme ouvrage, je reviens à votre première question, et on s'est aperçu que finalement il existait pas mal de choses sur le cirque classique et le cirque traditionnel. Donc quel était l'intérêt pour nous de rajouter des éléments sur des livres, des ouvrages qui existent déjà, qui sont plutôt bien faits d'ailleurs. Et donc on a pris ce parti pris, mais c'est un parti pris, rien d'autre. Ça ne veut rien dire sur ce qu'on pense de ce cirque-là ou ce qu'on pense pas de ce cirque-là. Ce cirque-là existe, on le respecte profondément dans le livre, on explique pourquoi il est absolument essentiel et que c'est pas la peine de rentrer dans des guerres picrocolines entre les traditionnels. Les traditionnels, hein. Bon, voilà, ça existe, c'est là. Après, on a dans l'introduction aussi fait un paragraphe sur l'économie du cirque, qui aussi est un élément majeur dans le dispositif d'apparition et de disparition des compagnies. Mais voilà, c'est un choix qui n'est pas un choix politique ou esthétique. C'est une esthétique qui a son existence, on la respecte profondément. Et s'il y a encore une fois des auteurs qui veulent écrire dessus, je pense qu'il y a très largement de quoi faire un panorama. Un autre.
J'ai parcouru brièvement le livre. Combien de compagnies ou d'artistes sont présents dans ce panorama ?
On a fini à 70, c'est les hasards de l'histoire. Hein. Encore une fois, on a commencé, on n'était pas loin d'une centaine. Après, c'est une question de pagination. Je rentre un peu dans la technique de fabrication d'un ouvrage de cette nature, qui est quand même un gros bouquin, il faut le dire. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Vous êtes à pagination prévue d'avance. C'est-à-dire, vous savez que votre pagination va être de 600, 630. En gros, on était sur cette zone-là. Plus vous multipliez les compagnies et plus vous diminuez le nombre de pages, plus de compagnies égale moins de pages par compagnie. C'est un effet absolument radical. On n'a pas voulu ça, on a voulu justement laisser de l'espace et laisser de la place pour chaque entrée. Et donc on a décidé de façon arbitraire que 100 c'était beaucoup trop. 100 c'était le chiffre qui avait été choisi pour le panorama de la danse contemporaine, qui est l'ouvrage qui a été édité par Textuel avant nous. Et on s'est dit que 70, mine de rien, ça permettait une à trois pages de plus par compagnie. C'est énorme. C'est énorme. À l'échelle d'un livre, c'est énorme. Donc plus de pages pour s'exprimer soit visuellement, soit dans le texte. Et c'est ce parti pris qu'on a choisi parce qu'on s'est dit que c'était important qu'on ait cette place-là.
Alors il faut dire qu'effectivement, c'est un livre... assez beau parce qu'il y a aussi une collection de photos non négligeables. Ça a dû être aussi un travail pour sélectionner cette masse d'images.
Ça, c'est je dirais que d'un point de vue technique ou d'un point de vue du temps passé, c'est de loin le nombre d'heures le plus important. Ça, c'est absolument évident. D'abord parce qu'il existe des centaines et des centaines et des milliers de photos de cirque, et que chaque photographe, parmi ceux qui ont été choisis et qui ont proposé, a évidemment sur son ordinateur, on lui donne un nom et il nous sort 600 photos. Donc c'est un travail extrêmement difficile. L'intérêt qu'on y a pris, c'est que on a essayé le plus possible, et c'est ce que je disais à chaque fois dans mes discussions avec l'éditeur, il n'y a rien qui ressemble plus à une photo de cirque qu'une photo de cirque. Il n'y a rien qui ressemble plus à un trapéziste sur un trapèze qu'un trapéziste sur un trapèze, quelle que soit la compagnie. Donc la difficulté, elle est là, c'est-à-dire sortir un bouquin où chaque fois qu'il y a un trapéziste sur un trapèze, eh bien c'est une notion du trapèze qui est différente. Chaque fois qu'il y a un fil de fer sur un fil, c'est une notion du fil de fer qui est... Sur 600 pages, c'est une gageure.
Pour terminer, alors vous avez un long parcours dans le milieu culturel. Vous avez été conseiller au ministère de la Culture, si je ne m'abuse. Vous avez été directeur de la Villette, vous l'avez dit, journaliste aux Inrecuptibles. Quel regard vous portez sur l'évolution depuis 30 ans que le cirque traditionnel, contemporain existe, de l'évolution de ce milieu.
Je pense, mais alors là je donne non pas l'avis de Véronique Klein, chacun a son opinion, ses opinions. Je pense très sincèrement que le système français, que nous décrivons largement dans cet ouvrage, puisque vous l'avez dit, il y a pas mal d'étrangers, mais enfin, majoritairement, les compagnies sont des compagnies françaises, très largement. Et je pense que le système français, ce que j'appelle le système français, c'est le système, on va dire, de ces 30 dernières années autour du ministère de la Culture, des subventions qui ont été attribuées à un certain nombre de compagnies, des pôles cirque et, last but not least, le CNAC. Qui est pour beaucoup dans la manière dont le cirque français aujourd'hui évolue ou a évolué ou est en train d'évoluer. Je pense personnellement que ce système est à bout de souffle, c'est-à-dire que c'est un système qui s'essouffle, c'est un système qui a eu sa carrière, sa vie, son cycle comme tout bon système. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il a fini sa carrière, qu'il a fini son cycle, et il l'a fini parce que, à force de formatage, à force de multiplier l'offre sans se préoccuper beaucoup de la demande, il y a aujourd'hui effectivement un paquet de compagnies qui trouvent pas leur public. C'est quand même très important et très très embêtant dans ce système là. Et je trouve encore une fois que tout ce qui est fait pour développer l'international, je recite Jeune Talent Cirque, je pourrais citer aussi un autre organisme que j'oublie parfois et qu'il faut citer, qui est le CREAC. Le CREAC, c'est un centre de recherche européen qui est basé à Marseille et qui est dirigé par Guy Carrara. Voilà, pour moi, typiquement le genre d'initiative qui fait évoluer le cirque aujourd'hui. Et je le dis pas parce que je suis à Auch là tout de suite, mais c'est vrai que on aurait un festival de plus que Circa, ou du niveau de Circa, ou deux ou trois festivals du niveau de Circa en Europe, on se porterait pas plus mal. Et que là aujourd'hui, il y a des phénomènes de concentration qui font que voilà, il y a une surconcentration sur le CNAC, surconcentration sur Auch, surconcentration sur un certain nombre de compagnies qui font que le système va un peu dans le mur, à mon avis, parce que les spectateurs ont du mal à suivre.
Et vous ne voyez pas de relation de cause à effet avec, par exemple, la modification du régime d'assurance chômage des intermittents, qui a été modifié en 2003 et qui a fait que les plus fragiles ont disparu et que finalement le phénomène de concentration est lié peut-être aux contraintes économiques du secteur.
Oui, mais moi je le situerai plus globalement. C'est-à-dire, je pense que les contraintes économiques du secteur, bien sûr, les contraintes économiques du secteur, on pourrait dire que les contraintes économiques du secteur de la culture en général. Il se trouve que le cirque fait partie de la grande famille du spectacle vivant. Enfin, quand on parle avec des gens de théâtre, ils sont pas visiblement mieux lotis de ce point de vue-là que les gens de cirque. Je trouve que c'est le système économique global de la culture aujourd'hui qui est fragilisé, les circassiens parmi les autres. Hein. Moi, je suis pas sûr que le phénomène, enfin que la crise des intermittents, enfin, le régime des intermittents manifesté par une crise majeure il y a quelques années maintenant, et plus abîmer le secteur du cirque, le secteur du théâtre ou le secteur de la musique. J'ai du mal à imaginer ça. Bien sûr, les plus fragiles sont toujours les plus fragiles, quel que soit le secteur culturel dans lequel on est. Je note simplement que il y a un problème économique du cirque qui est lié aussi au chapiteau, qu'il faut quand même pas négliger. Beaucoup de gens en parlent. C'est-à-dire que l'économie générale du cirque, c'est une économie qui est chère. C'est comme ça. Voilà.
Et vous parliez tout à l'heure de phénomène de concentration aussi. Moi, j'avais un regard un peu naïf peut-être. J'ai l'impression que le cirque imprègne les autres disciplines à tel point que tous les théâtres ou les grands théâtres, par exemple, programment des spectacles de cirque. Et aussi, les festivals de rue programment des spectacles de cirque. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un espace de diffusion large pour les compagnies qui se proclament circassiennes.
Oui, mais le phénomène est exactement le même qu'en théâtre et en danse. C'est-à-dire que n'importe quel directeur de salle vous dira moi, j'ai une saison, j'ai, 20 spectacles dans la saison, ou 10, ou 15, ou 33. Si j'en ai 33, j'en ai pas 34. Et le fait est que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une augmentation sérieuse de l'offre d'un point de vue des structures. Par contre, le nombre de compagnies ne cesse d'augmenter. Enfin, par un principe très simple, hein, tout bon circassien du CNAC qui sort de sa promo, les promos sont de 13 ou de 15 ou de 12, il ne pense qu'à une seule chose à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, c'est monter sa compagnie. Donc évidemment, on a un phénomène de concentration parce que les stars restent les stars et font beaucoup de d'entrées. Et ceux qui poussent à la porte, évidemment, ils ont un problème. Moi, je dirais que c'est plus un problème de pyramide des âges. que quoi que ce soit d'autre. C'est aussi un des phénomènes de, qui existe dans le théâtre, d'ailleurs, qu'on voit assez bien dans le théâtre. Et pire encore, dans la danse contemporaine, où vous avez aujourd'hui une majeure partie des directeurs de centres chorégraphiques nationaux qui ont une quarantaine d'années. Bon, bah, 40 ans, ils ont encore 20 ans devant eux de carrière. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, derrière eux? Donc, il y a un phénomène pyramide des âges qui existe réellement dans ce métier, dans cette profession. Donc, la concentration, elle va aussi. On ne va pas demander à Jérôme Thomas d'arrêter de travailler.
Oui, ça serait dommage pour le spectacle et les spectateurs.
Absolument.
Et dans votre panorama contemporain du cirque, j'avoue que je n'ai pas lu votre livre, hein, encore, vous l'avez bien compris. Est-ce qu'il y a une place au public? C'est-à-dire que dans l'imaginaire populaire, le cirque est assez codifié, on pourrait dire comme ça. Le cirque contemporain a fait éclater relativement ses codes. Donc il y a une approche totalement différente de ces compagnies, vous en parlez, hein. Un peu du ressenti du public, on peut imaginer ça.
On est très... Je suis resté sur cette partie-là, en l'occurrence c'est moi qui l'ai rédigé, mais je suis resté vraiment plutôt sur l'économie. Et quand je parle de l'offre et de la demande, c'est vraiment parce que je souhaite employer des termes d'économie. J'ai pas fait là-dessus d'analyse esthétique. J'avais fait des études assez poussées du public à la Villette, des études que j'avais faites faire par des organismes qui savent faire ça. Et j'en avais déduit un certain nombre de choses qui m'avait montré que il y avait un énorme travail à faire sur le public et notamment sur la partie populaire ou supposée populaire. Je me souviens d'une réflexion en réunion à la Villette où on disait non mais le cirque c'est vachement bien, c'est populaire, donc c'est populaire. J'avais fait faire une étude à l'époque, donc on est en 2002. C'est assez drôle parce que le populaire c'est à bac plus 5 quand même, hein, à la Villette, donc le cirque est pas populaire du tout, il est même absolument pas populaire.
Donc, c'est-à-dire que le cirque dit classique et touche plus de monde que le cirque dit contemporain, qui touche les gens qui vont au théâtre, qui vont voir des spectacles de danse, etc., etc. C'est, en gros, c'est ça.
Bien sûr, bien sûr. Et là où on a... Moi, je crois que là où on a réussi, enfin, le on étant Circa, la Villette, Cherbourg, enfin, bon, évidemment, personne n'a le monopole de la réussite en matière de diffusion et en matière de manière de toucher le public. Je pense que vraiment, il y a eu des choses qui ont été faites magnifiques parce que les gens ont découvert le cirque à travers parfois des toutes petites formes et des choses qui les ont tellement bouleversées que moi je pense bon, à la Villette parce que c'est ce que je connais le mieux. Quelqu'un comme Joanne Le Guillerme, il a bouleversé totalement mon public. Enfin, je dis mon public, à l'époque je disais mon public, je continue à le dire, de l'époque. Parce que je l'ai vu très très vite, on l'a suivi pendant des années, il est encore à la Villette, hein, en résidence, et il a complètement modifié parce que les gens ne se sont même plus sentis dans le cirque à un moment, ils se sont sentis totalement ailleurs, et donc du coup ils se sont déclassifiés, ils se sont déconnectés d'une classification, et là on commence à voir apparaître des nouveaux publics, mais vous avez la même chose en théâtre et en danse. Il y a tout un tas de compagnies aujourd'hui qui sont tellement à côté du théâtre qu'elles ne sont plus nulle part. Donc, et les gens aiment beaucoup ça.
Ça sera le mot de la fin. Merci Pierre Hivernat. Et on rappelle que donc à la boutique du festival et certainement dans toutes les bonnes librairies. Je ne sais pas s'il est sorti en librairie. À partir de demain. Donc allez acheter ou consulter le Panorama contemporain des arts du cirque aux éditions textuelles Hors les Murs. Un livre coécrit par Pierre Hivernat donc, et Véronique Klein. Merci beaucoup.